Bonjour Nicole Tamborini.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour parler d'Achille Laugier, qui est actuellement exposé à la Fondation L'Ermitage à Lausanne. Une rétrospective d'une immense importance, puisqu'il y a plus de 80 œuvres qui sont exposées. Et c'est grâce à votre intervention en tant que commissaire de l'exposition. Vous êtes la personne à qui parler pour savoir plus sur Achille Laugier. Vous êtes la spécialiste. Comment êtes-vous venu à le connaître aussi bien?
Alors en réalité, ça a été comme souvent un petit peu le cas des circonstances heureuses, puisque au départ c'est un travail universitaire que j'ai entamé à la fin de mon cursus de l'école du Louvre, où je me suis adressée à mon professeur principal, alors Michel Hogg, le conservateur du musée de l'Orangerie des Tuileries à Paris, et qui m'a proposé de prendre ce travail de recherche autour d'Achille Laugier. Ce que j'ai fait après m'être rendue à Carcassonne, parce que j'avais, la première fois qu'il m'en a parlé, je n'avais jamais entendu ce nom-là, je connaissais rien de Laugier. Et je suis donc allée à Carcassonne voir les œuvres du musée et rencontrer une personnalité locale qui avait collecté toute sa vie de la documentation concernant cet artiste et qui avait écrit à Michel Hogg en lui demandant qu'un étudiant prenne ce sujet pour pouvoir exploiter cette documentation. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et au départ, en fait, j'ai dû tout reconstituer, c'est-à-dire reconstituer la biographie de l'artiste, la chronologie des événements qu'il concernait, les gens qu'il a pu rencontrer, les influences qu'il a pu recevoir. Et c'est comme ça que je me suis embarquée dans une aventure de toute une vie, en réalité, puisque ça a débouché ensuite, d'abord sur l'élaboration du catalogue raisonné de son œuvre, et puis maintenant sur l'expertise de son œuvre sur le marché de l'art.
Voilà, donc maintenant vous accompagnez, ou c'est l'inverse, Achille Laugier vous accompagne. Vous le connaissez si bien, vous connaissez son parcours qui est assez singulier, insolite. D'ailleurs, il vient d'un milieu de la campagne et ses parents le destinaient à faire de la pharmacie. Et tout d'un coup,
Exactement.
il a eu une révélation.
Je crois que c'est arrivé d'ailleurs assez tôt parce que manifestement, dès son parcours scolaire, ses professeurs notaient qu'il avait surtout une grande facilité et un grand intérêt pour le dessin. Et ce sont ses parents qui souhaitaient l'orienter vers des études de pharmacie. Il n'en avait absolument pas la vocation. Il est allé à Toulouse étudier la pharmacie, mais surtout suivre les cours du soir de l'école des beaux-arts de Toulouse. Et ensuite, il a convaincu ses parents que c'était là sa vraie vocation. Et il a réussi donc à aller de Toulouse à Paris pour suivre les cours de l'école nationale des beaux-arts à Paris.
Et puis, durant son séjour à Toulouse, il va rencontrer des personnes qui seront importantes dans sa vie, dont Antoine Bourdelle.
Voilà, exactement. En fait, à Toulouse, il rencontre ceux qui vont devenir les très grands amis de sa vie artistique. C'est-à-dire, il a côtoyé Henri Martin à Toulouse, et surtout, il a rencontré Aristide Maillol et Bourdelle, Antoine Bourdelle, qu'il retrouvera tous les deux à Paris, puisqu'en fait, à Paris, ils se sont retrouvés entre pays, comme on disait alors. Laugier venait de Carcassonne, Bourdelle de Montauban, Maillol de Banyuls. Et ils se sont serrés les coudes dans la froide et grise capitale, en vraiment avec un acte de solidarité qui a créé une amitié d'une vie, parce que Laugier a hébergé Bourdelle dans sa modeste mansarde, Maillol a hébergé Laugier dans son atelier qu'il avait réussi à louer à côté de l'école des beaux-arts. Il y a vraiment une amitié triangulaire là qui s'est formée pour de longues années.
Comme le mentionne l'intitulé de cette exposition, le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud, ce qui marque quand on visite l'exposition à l'Ermitage, c'est justement la lumière des tableaux. Et vous êtes une spécialiste par rapport aux tons qu'il a utilisés, d'abord les tons primaires. Vous pouvez vous parler de sa méthodologie, s'il vous plaît?
Oui, c'est extrêmement intéressant de voir que Laugier a donc adopté la technique du néo-impressionnisme, qu'on appelle quelquefois divisionniste ou pointilliste, c'est-à-dire la juxtaposition de petites touches de couleurs pures que l'on ne mélange absolument pas ni sur la palette avant de peindre, ni sur la toile en peignant, mais des petites touches de couleurs pures qui sont posées les unes à côté des autres sur la toile et qui sont construites uniquement avec les couleurs du prisme, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire les trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune, et leurs complémentaires, le violet, l'orange et le vert. Et Laugier va se convertir à cette technique-là, qu'il a découverte pendant son séjour parisien notamment en 1886, quand il se rend avec Mayol au Salon des Indépendants et qu'il voit le fameux tableau manifeste de Seurat qui s'appelle « Un dimanche après-midi à l'île de la Grande-Jatte », il a vraiment, comme Mayol, comme tous ses camarades, il a un choc en voyant ce tableau profondément novateur. Mais il ne change pas sa manière de peindre à ce moment-là. C'est seulement une fois revenu dans son petit village de l'Aude, en 1888-89, là, il va commencer à modifier sa manière de peindre. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous mentionniez sur la lumière de ses tableaux, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'a transformé sa manière de peindre que quand il s'est retrouvé au contact de cette lumière méridionale, qui est extrêmement forte, extrêmement intense, qui a tendance à sculpter les reliefs, à jouer vraiment des contrastes prononcés de lumière et d'ombre, à modeler de manière très abrupte les formes. Et c'est ça qui va l'obliger à trouver une nouvelle manière de peindre pour rendre cette lumière. Ce qui est intéressant, c'est que Loger n'est pas le seul à avoir opéré cette conversion au néo-impressionnisme face à la lumière du Sud. La démarche de Henri Martin est la même, et avant eux, il faut considérer aussi que quelqu'un d'aussi éminent que Paul Cézanne a complètement changé sa manière de peindre quand il a quitté les brumes parisiennes où il travaillait avec les impressionnistes pour retourner à Aix-en-Provence, et où là, il a complètement changé sa manière de peindre et il a trouvé sa touche célébrissime, la touche typiquement cézannienne.
Je rebondis sur vos propos, Nicole Noborini, vous avez mentionné aussi la géométrie des formes, en particulier dans les bâtisses, qui sont les bâtisses proches de d'où réside la famille d'Achille Loger. Donc il veut les retranscrire, mais il veut en même temps cette géométrie afin de rendre peut-être les couleurs plus fortes, plus prégnantes.
Oui, oui, il est évident, les deux éléments qui frappent dans la peinture de Loger, c'est la palette, ses couleurs. Ils sont des couleurs très claires, qui sont des couleurs assez limitées. Sa palette est assez courte, il n'y a pas énormément de couleurs, il y a vraiment ses couleurs à lui. Et la deuxième chose qui frappe dans sa peinture, et notamment dans ses paysages, c'est ce souci de construction géométrique des formes. C'est vraiment quelqu'un qui est attaché à la géométrisation, à la synthèse, à la simplification des formes et des volumes. Ça, c'est très manifeste. Et quand il peint un paysage, ce qui l'intéresse dans le paysage, ce n'est pas le gros plan sur la touffe d'herbe, ça n'est pas non plus le papillonnement impressionniste qui dilue les formes et les contours. Au contraire, c'est vraiment l'ensemble des lignes de construction du paysage, sa structure générale. C'est ça le vrai sujet de son tableau avec la lumière. Et de ce point de vue-là, même si leur peinture est tout à fait différente à regarder, de ce point de vue-là, il a un évident point commun avec Cézanne.
Vous avez réuni quelques 80 tableau, on le disait en début d'entretien. Comment avez-vous procédé pour nous faire déambuler à travers les quatre étages où sont exposés ces tableaux? D'abord, on voit un buste de Bourdel quand on entre dans la première pièce, où il y a des portraits des proches, justement, d'Achille Loger, faits de manière pointilliste, ce qui est surprenant pour l'époque.
Oui, absolument. Mais en fait, quand Sylvie Wurman et l'équipe de la Fondation de l'Ermitage m'a contacté pour construire ce projet, la première phrase de Sylvie Wurman, ça a été de me dire « définissez un propos », c'est-à-dire « dites-moi le discours que vous voulez tenir dans cette exposition, qu'est-ce que vous voulez dire à propos d'Achille Loger et comment voulez-vous le dire, avec quel tableau, avec quelles œuvres, dans quel ordre et dans quelle salle ?» Et on a vraiment travaillé au départ en construisant le parcours à partir des chimaises et des salles de la Fondation de l'Ermitage. Et moi, mon propos, c'est ce que j'ai défendu dans le parcours de l'exposition, c'était de dire ce qu'il faut pointer dans l'exposition, pour des gens qui ne le connaissent pas, c'est ce qui fait sa particularité et sa profonde originalité. En quoi Loger est-il un peintre personnel et original? Et c'est pour ça que le parcours commence avec les portraits. Parce que je trouve que c'est profondément original, quand on est un peintre qui travaille dans la technique néo-impressionniste, de représenter la figure humaine en portrait. Il est vraiment une exception dans le néo-impressionnisme français pour s'être intéressé à ce point-là, à la figure humaine, à la représentation des portraits, dans une technique qui est réputée très difficile et très austère pour représenter des visages humains, justement. Donc ça, c'était la première chose que je voulais pointer, c'était cette originalité, s'intéresser aux portraits. Et puis ensuite, vous avez vu qu'on passe dans la seconde salle où il y a les grands portraits néo-impressionnistes, extrêmement monumentaux, extrêmement imposants. Et dans la troisième salle, toujours sur le premier niveau de découverte, je tenais à ce qu'il y ait une salle de nature morte, parce que là aussi, c'est une originalité profonde de Loger. Aucun des néo-impressionnistes ne s'est intéressé à la nature morte, et lui en a fait au contraire un élément très important de son travail. Et je voulais montrer, en passant de cette salle des grands portraits monumentaux aux figures imposantes comme Madame Astre en robe blanche sur fond blanc, en format grandeur nature, qui est vraiment une œuvre très marquante, je voulais montrer que Loger était capable de faire aussi des natures mortes très japonisantes, extrêmement délicates, subtiles et raffinées, et que c'était un artiste qui était capable de passer de la monumentalité à la délicatesse.
Et après, vous nous entraînez vers les fameux arbres en fleurs, les amandiers en fleurs, ou ces arbres qui bordent les allées, les routes de sa région. Là aussi, c'est un travail très différent de ce qui a précédé dans les salles où on défile, qui est vraiment des œuvres qui sont mises en valeur par le cadre de l'Ermitage, où la luminosité influence.
Voilà. Après le premier niveau où on découvre les portraits et les natures mortes, j'ai voulu consacrer tout le premier étage au paysage, parce que Loger est quand même connu, quand il est connu pour essentiellement pour ses paysages, pour cette luminosité méridionale qui vraiment transcende son travail. Et je voulais consacrer tout l'étage au paysage, parce que précisément, on est dans cette fondation d'Ermitage qui a la chance d'être une belle maison de maître avant d'être un musée, qui a donc des pièces avec des grandes fenêtres ouvertes sur la nature, avec une lumière naturelle qui pénètre à flot dans les salles. Et Loger n'est jamais mieux mis en valeur que lorsqu'il est éclairé à la lumière naturelle. Et j'ai trouvé très joli au premier étage de pouvoir faire dialoguer la nature que l'on voit à travers les fenêtres du musée dans ce parc merveilleux et la nature que l'on voit dans les tableaux de l'artiste. Et je trouve que le regard peut aller de la fenêtre au tableau et c'est extrêmement agréable effectivement d'être dans cette lumière éblouissante de la peinture comme de la nature.
Nicole Dombrouni, vous avez mentionné qu'il est à la fois simple, raffiné, il trouve tous ses sujets, son inspiration dans son milieu, son environnement, proche de lui.
Exactement, dans une très très grande proximité. Ça aussi, c'est une originalité de cet artiste. Loger n'a pas besoin de voyager pour trouver l'inspiration, de parcourir le monde, bien au contraire. S'il a fait le choix de quitter Paris en 1888 et de retourner s'enfermer, je dirais, dans ce petit village perdu, au fin fond de la France de l'époque, hein, où les communications n'étaient pas très faciles, c'est parce que c'est un artiste qui trouve son inspiration tout à côté de chez lui. Il est extrêmement frappant de voir que les portraits qu'il fait, ce sont les portraits de ses voisins, de ses amis, de sa famille, donc de gens qui lui sont proches. Les natures mortes représentent les fleurs et les fruits de son jardin, et les paysages représentent ce qui est autour de sa maison. Et je me suis amusée à plusieurs reprises à aller sur place avec mon appareil photo et à retrouver dans l'objectif de mon appareil photo exactement les tableaux tels que Loger les avait peints. Et on s'aperçoit qu'en faisant cet exercice, qu'il plante son chevalet dans un rayon de 2 km maximum autour de sa maison. Et là, on a l'essentiel de sa production de paysage. C'est très frappant. Et d'ailleurs, Loger a même été jusqu'à travailler par le système des séries sur cette route de caillots qui est voisine de sa maison, comme Monet travaillait sur les meules ou les cathédrales de Rouen, eh bien Loger prend ce même motif de la route de caillots, plante son chevalet à quelques écarts de quelques mètres d'une fois à l'autre et il montre à travers sa peinture qu'en fonction de la saison, du temps qu'il fait, de l'heure de la journée, de la luminosité, eh bien le paysage est à chaque fois différent, à chaque fois renouvelé.
Alors Nicole Tambourini, je rebondis sur vos propos, vous mentionnez justement qu'il fait des séries, qu'il remet tout le temps l'ouvrage sur le métier, comme Monet le faisait avec ses cathédrales. Et pour ce faire, en fait, il a une astuce, c'est qu'il a créé une roulotte atelier.
C'est ça, exactement. Il a fabriqué lui-même une sorte de petite roulotte à bras qui lui permet d'aller peindre sur le motif par tous les temps, parce qu'il a fait l'expérience qu'avait fait Monet ou Pissarro avant lui, c'est-à-dire que quand on plante son chevalet en plein vent, eh bien, il peut être, la toile peut être emportée par une rafale ou la pluie peut tomber dessus brutalement. Et il a fait exactement, c'est amusant de voir que Pissarro a fait à peu près le même bricolage sur les photographies qu'on a de lui, une petite roulotte brouette qui contient en fait démonter des petites parois très légères en toile qu'il peut rabattre ou redresser. Et à l'intérieur de cette petite roulotte en toile, eh bien, il dispose juste un pliant, son chevalet, et ça lui permet de travailler dehors sur le motif, quel que soit le temps.
Comme vous disiez en début d'entretien, Nicole Tombroni, il s'agissait au départ d'un travail de mémoire à la fin d'École du Louvre. Et vous reconnaissiez vous-même que vous ne connaissiez pas cet artiste. C'est le cas du simple quidam. Achille Laugier, c'est presque un inconnu pour les gens qui connaissent Pissarro, qui connaissent Seurat, qui connaissent Monet. Comment expliquer cela ?
Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qui s'explique, je dirais, d'une double façon. La première, c'est parce que Laugier a choisi de quitter Paris à l'époque où, s'il était resté dans la capitale, il aurait participé à tous ces foyers d'avant-garde artistique bouillonnante autour du critique d'art Félix Fénéon, de Signac, qui avait pris le relais après la mort prématurée de Seurat et qui est devenu le chef de file du néo-impressionnisme et son porte-étendard, et qui a empêché le mouvement de mourir avec son créateur. Donc si Laugier était resté dans ce milieu, il aurait certainement participé au mouvement de notoriété qui a entouré toutes ces figures de Pissarro, passant de l'impressionnisme au néo-impressionnisme, de Signac ou de Henriette von Cross et de tous les autres. Et là, effectivement, je pense que, compte tenu du talent qui est le sien, il serait légitimement devenu célèbre au même titre qu'eux. Sauf qu'il a fait le choix de retourner s'isoler complètement dans sa campagne. Et il a essayé tout de même ensuite, dans les années qui ont suivi, dans les années 90, il a essayé d'envoyer des tableaux pour qu'ils soient exposés à Paris, au Salon des Indépendants, où effectivement tout le monde pouvait exposer. Donc son tableau a été admis, c'était le portrait de Madame Astre, que les visiteurs peuvent voir à l'exposition, mais le portrait a été très, très moqué, très critiqué, et Laugier en a été blessé, bien sûr. Et ensuite, quand il a essayé d'envoyer des tableaux comme le portrait de Madame Laugier à contre-jour, que l'on voit aussi dans la même salle de l'exposition, eh bien, au Salon d'automne, on lui a refusé ces tableaux, et on lui a renvoyé ces tableaux sans les exposer. Et je pense qu'il en a été assez écœuré, et que ça a contribué à cet enfermement. Je pense que Laugier, par tempérament, est un solitaire, qui est un taiseux, qui n'aime pas les discussions théoriques autour de l'art, qui aime prendre son chevalet et partir dans la nature, tout seul, loin de tout, pour peindre comme il a envie, lui, de peindre, et comme il pense que c'est la bonne manière de peindre. Donc, il est certain que, de son vivant, il a échappé à la notoriété, à la carrière officielle, à la réussite financière. Et la seconde raison de sa méconnaissance par le public d'aujourd'hui, c'est que quand vous n'avez pas été connu et célèbre de votre vivant, c'est extrêmement difficile de revenir sur la première place du podium et sur le devant de l'art. Et c'est un travail de très longue haleine, je suis bien placée pour le savoir parce que ça fait de très longues années que je travaille sur ce peintre. C'est difficile de revenir, effectivement, parce que la plupart du temps, les musées n'ont pas envie d'exposer un artiste peu connu, parce que les musées ont besoin d'avoir du public qui vienne voir les expositions, et les musées sont un peu frileux en se disant s'il n'est pas connu, les gens ne viendront pas. Et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante à la Fondation de l'Ermitage d'avoir eu l'idée de mettre en lumière un peintre peu connu. Et il faut vraiment rendre hommage à la politique de Sylvie Wurman et de son équipe, parce que ça n'est pas la première fois qu'elles font cette démarche de présenter des artistes peu connus du grand public. L'année dernière, Hans Hemmeneger avait beau être suisse, il était peu connu du grand public. Et à chaque fois, l'exposition connaît un vrai succès parce que le public, ça l'intéresse le public qu'on lui montre quelque chose d'autre que Picasso, Renoir ou Monet, qu'on change un peu et qu'on lui montre des gens moins connus. Et si le talent est réel, eh bien le public il est ravi et il vient, et le bouche à oreille fonctionne très bien.
Tout à fait, Nicole Tombroni, j'allais le dire. Lorsque j'ai pu visiter C'était à la fois très aéré, comme ça peut l'être à l'Ermitage, mais il y avait du monde et les gens étaient très enthousiastes. Ils s'arrêtaient devant les petits panneaux à côté des tableaux pour lire justement les commentaires et certains se précipitaient sur le catalogue à la sortie, un catalogue où vous mentionnez tous ces éléments que vous nous donnez maintenant par entretien. Quelle est la place aujourd'hui d'Achille Laugier? Vous avez bien dit qu'il est peut-être méconnu du grand public, mais grâce à cet éclairage que vous donnez à travers vos ouvrages et cette exposition très importante, il va acquérir sans doute une place plus importante.
Oh, je l'espère parce qu'il le mérite et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est vraiment en train d'advenir depuis quelques années. Alors, j'allais dire, il y a un critère qui n'est sans doute pas le plus flatteur, mais qui est quand même assez révélateur. Un critère caractéristique, c'est que je vois apparaître des fous sur le marché de l'art dans mon métier d'expertise. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, ça n'arrivait pas. Et maintenant, je vois des tableaux qui ont vraiment été fabriqués pour faire des faux. Et ça veut dire que l'artiste commence à connaître une certaine reconnaissance, que sa cote est assez conséquente sur le marché de l'art pour que des gens se donnent le mal de fabriquer des faux. Donc, vous voyez, c'est en train de venir par des moyens qui ne sont pas toujours les plus flatteurs, mais qui
Cocasse.
sont assez révélateurs. Et je pense que cette exposition à l'Ermitage devrait donner un élan certain à Laugier, puisque les expositions précédentes avaient lieu en France, mais en province. Et je crois que là, la Fondation Ermitage ayant un public très international, je pense que nous allons le porter peut-être dans la cour des grands maintenant, et c'est largement ce qu'il mérite.
Voilà, dorénavant, le public connaîtra ben, les Camille Pissarro, Signac, Seurat, Monet et Achille Laugier. C'est
Oui.
grâce à votre travail, justement, à la fois au niveau des ouvrages, au niveau de l'élaboration de cette exposition, le catalogue que l'on a mentionné. Vous poursuivez votre travail aux côtés d'Achille Laugier?
Absolument. Ah oui, c'est un travail d'une vie et j'ai la chance d'avoir un sujet qui ne me lasse pas. Je dois dire que j'ai toujours autant de plaisir à travailler sur ce peintre et à chaque fois que je découvre un nouveau tableau et un beau tableau, c'est une grande joie, un éblouissement et un encouragement à continuer, à se dire ça mérite qu'on se donne du mal pour le faire reconnaître parce que vraiment c'est un beau peintre.
D'autant plus qu'il a essuyé des critiques assez acerbes de son vivant. Il n'a pas été tellement encouragé par ses contemporains. Ça vous
Oui,
surprend?
exactement. Heureusement, il avait un tout petit cénacle autour de lui à Carcassonne, de gens qui étaient des amis très proches et qui s'intéressaient à l'art contemporain de leur temps. Je pense à Albert Sarraut, qui a fait une carrière de parlementaire sous la Troisième République. Je pense à Achille Astre, qui a été un de ses amis à Carcassonne et qui est ensuite devenu galériste et marchand de tableaux à Paris. Gustave Geffroy, qui de journaliste artistique va devenir directeur de la manufacture des Gobelins et qui va commander un ensemble de cartons de tapisserie à Achille Laugier. Donc heureusement qu'il avait quelques amis qui le soutenaient et l'encourageaient, mais sinon je pense que son quotidien, oui, a été assez triste par la méconnaissance de ses contemporains.
Ce qui marque quand on visite ces expositions sur 4 étages, c'est une sérénité. Vraiment, il y a une lumière, bien sûr, mais une sérénité qui émane des tableaux. Et vous nous entraînez au dernier étage où on voit des éléments phares de sa biographie avec des photographies des proches. Et puis au sous-sol de l'Ermitage, là on poursuit l'exposition. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le sous-sol?
Oui, tout à fait. Après les combles, le troisième étage qui est vraiment un endroit un peu intimiste où j'ai trouvé tout à fait opportun de montrer les portraits de ses amis proches. Ensuite, l'exposition se termine au sous-sol, dans cette grande salle qui permet d'ouvrir la perspective sur les années 1910-1920 du travail de Laugier, où on s'aperçoit que sa touche devient plus libre, plus rapide, plus spontanée. Il suit là une évolution qui a été la même chez tous les néo-impressionnistes. Tous ceux du mouvement ont adopté, c'est après 1900-1910, une touche plus rapide, plus libre, et qui permet de peindre plus vite, que de peindre plus facilement sur le motif. Mais on voit bien que sa palette reste la même dans ces années-là, et son exigence du rapport des couleurs pures reste la même. Et là, ce sont des paysages que nous présentons qui concernent Collioure, puisque Laugier, dans les années 20, séjourne régulièrement l'été à Collioure et qu'il est évidemment sensible à la lumière de ce petit port, mais aussi sensible au passage historique de Matisse, de Derain, qui en 1905 à Collioure vont créer la révolution fauviste et logé dans ces tableaux des années 10, des années 20, montre une explosion de la couleur qui est tout à fait dans la logique de la peinture de cette époque, qui après le fauvisme laisse chanter les couleurs d'une manière encore plus forte, encore plus intense. Et Loger s'est très bien rendu compte dans ces années-là, comme tous les autres néo-impressionnistes, que plus on agrandit sa touche de couleur pure, plus évidemment la couleur monte en gamme dans le tableau, la couleur vibre de manière beaucoup plus intense dans le tableau, et on le voit bien dans cette dernière salle, que ce soit les paysages de Collioure ou les paysages de Toulouse, où on retrouve toujours ce goût de l'architecture, hein, avec les maisons, le clocher des Augustins, le cloître, on a vraiment des tableaux très construits, ou cette fenêtre ouverte sur les toits rouges de Toulouse, à la fois cette construction géométrique de l'espace, mais surtout cette couleur extrêmement vibrante.
Alors, c'est vraiment passionnant de vous écouter, Nicole Tamburini. L'exposition a déjà commencé au mois de juin, elle se poursuit jusqu'au mois d'octobre à l'Ermitage. Est-ce que vous êtes en train d'écrire encore un nouvel ouvrage sur Achille Loger ?
Eh bien, je continue à l'avancée du catalogue raisonné, qui est un ouvrage de fond qui vraiment prend des années et des années. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, effectivement, j'enrichis d'un article, une publication, quelle qu'elle soit, autour du néo-impressionnisme et de cette période qui le concerne.
Et comme vous le mentionnez en début d'entretien, vous êtes historienne de l'art. On est très heureux de savoir que vous avez rencontré Achille Loger, qui nous permet d'avoir un tel éclairage si exhaustif sur son œuvre et sur sa personne, son parcours, car vous l'avez rencontré à l'école du Louvre, et vous êtes dorénavant l'experte pour expertiser les tableaux. Donc attention à ceux qui veulent faire des faux. Merci de nous avoir consacré de votre temps, c'était vraiment passionnant. On peut vous lire également dans le catalogue, qui est disponible à l'Ermitage.
Exactement, et merci infiniment à vous, et surtout je souhaite une belle découverte à tous les futurs visiteurs de l'exposition.
Merci Nicole Tamburini, à tout bientôt.
Merci à vous, à bientôt.